Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est synonyme de résilience et d'esprit positif malgré les expériences de la vie. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Madame Fidalim Knessi, bonjour.
Bonjour Yasmine, merci beaucoup pour cette invitation.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Adela Marim?
Bien, alhamdoulilah.
Alors, quand je pense à vous, Maryam, je pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est les épreuves de la vie.
Ouh. Effectivement, j'ai la chair de poule là, quand j'entends les épreuves de la vie. Oui,
c'est vrai. Ça résonne en vous, les épreuves de la vie?
Oui, ça résonne énormément, de plus en plus. Mais c'est ça la vie. La vie, il y a des hauts, des bas, des épreuves, des expériences. Et c'est ça ce qui est magnifique, parce que si la ligne est droite, on serait déjà...
On s'ennuierait.
Exactement. Donc, ouais. C'est ça aussi le qui est magnifique, hein, qui est beau.
Mais en même temps, de ces épreuves de la vie, est-ce que vous auriez voulu ne pas avoir à en vivre certaines?
Alors, je vais dire la vérité, je vais être sincère puisque je suis la femme d'aujourd'hui pour Yasmine. Et merci encore pour ces podcasts et ces fabuleuses histoires de femmes inspirantes. Non, sincèrement, je n'ai jamais regretté un seul événement, une seule épreuve, un seul échec. Pour moi, toute expérience, mais je peux avouer quelque chose, c'est que j'ai un mental très positif. Je suis une femme qui cherche toujours ce qu'on appelle une porte de sortie, un plan B.
Oui.
Je pense que ça aussi, c'est très important, et je le dis de toute façon, il faut vraiment travailler son mental pour accepter la vie telle qu'elle est. Voilà.
Avec ses épreuves.
Avec ses épreuves. Et ça ne s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas.
On va illustrer tout ça pour que ça soit encore plus parlant à notre communauté. Quand je parle d'épreuves de la vie, alors, pour en citer quelques-unes, je pense d'abord à un changement de cap professionnel. Vous étiez dans les assurances, vous avez décidé de lâcher ça, d'aller vers le...
Du courage.
Voilà, du courage, exactement, vers un métier d'accompagnement de coaching.
Exactement.
Il y a un divorce, il y a le décès des membres de la famille.
Tout à fait.
Il y a le départ des enfants après le bac.
Oui.
Et il y a la maladie.
Qui vient clôturer un peu le tout, mais c'est une magnifique expérience. Oui.
Mais quand une maladie vient se rajouter à cela, est-ce que ça a été l'épreuve la plus compliquée à vivre?
Ça a été une épreuve très compliquée parce que, disons que les autres choses, ça a été, disons que le changement de carrière, ça a été voulu. Le départ des enfants, je m'y attendais un jour. Le divorce, non, mais ça a été une épreuve parce que je suis quand même une personne qui a des valeurs et je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, je m'attendais à un certain moment qu'il fallait aller et les dures épreuves que j'allais endurer. Mais la maladie, ça tombe comme ça. C'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. C'est la plus dure, l'épreuve la plus dure. Et je peux vous dire que je l'ai affrontée comme un peu comme un marathon. J'associe ça parce que c'est une dure épreuve. Mais je me suis dit, j'ai encore besoin d'être là. Mes enfants ont encore besoin de moi. Je n'ai pas terminé ma mission sur Terre et je dois m'en sortir. Et donc, c'est quand même, je pense, pour moi, la plus dure épreuve. Mais quelle expérience enrichissante. En fait, il y a un avant et un après.
C'est vrai.
Voilà. Oui, un avant et un après. En fait, ça a été un soulagement d'abord. Ça a été un soulagement parce que je souffrais Et Dieu sait ce que je soufflais à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un message à beaucoup de personnes parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, on n'a pas besoin d'aller voir exactement ce qui se passe, etc. Et après, bien sûr, le corps, il y a une limite. Stop, c'est fini.
Oui. Quand vous dites je souffrais, ça se manifestait comment? Et bravo, Maryam, mais merci beaucoup. Et je peux témoigner aussi de toute l'évolution parce qu'il y a un an, je vous avais demandé d'en parler et vous m'aviez dit je ne suis pas encore prête.
Je ne suis pas encore prête. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, j'en parle avec, aisément et il n'y a pas de souci. Et moi, au contraire, je voudrais que les gens. Parce que ce que j'ai vécu. En fait, il y a énormément de personnes, beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Et je vais dire une chose, c'est qu'elles sont incapables d'affronter la réalité et même de s'opérer parce qu'il y a la peur, il y a l'anxiété, il y a le doute du lendemain et tout cela. Mmh. Mais c'est ça la vie. Il faut avancer, il faut accepter ce qu'on a, c'est ça aussi. Donc,
c'était un cancer, c'est ça?
C'était un cancer, c'était un méningiome pour être plus précise. Donc un méningiome de quand même 4,5 cm côté droit.
C'est quoi un méningiome?
Un méningiome, donc c'est une boule, donc c'est un cancer, mais qui n'est pas, il est bénin, donc il n'est pas, c'est pas une tumeur maligne, c'est une tumeur donc bénigne. Mais ça a été après. Donc c'est une boule qui volumineuse, qui est dans le cerveau.
D'accord.
Tout dépend où elle peut se trouver. Donc, elle peut être dans un endroit qui est un peu compliqué pour opérer. Et donc, à un certain moment, le cerveau, il n'y a plus d'oxygène et ça bloque. Donc, ça peut créer beaucoup d'handicaps. Et donc, moi, j'ai laissé traîner. Donc, quand on dit 4,5 cm, c'est énorme. Mmh. C'est énorme.
Mais justement, vous saviez qu'il y avait quelque chose? Vous ressentiez qu'il y avait quelque chose à l'intérieur? Non, rien. Pas de migraine, pas de...
Si, bien sûr. Alors ça, je vais le dire malheureusement, mais je vais le dire. Mais j'ai déjà consulté à cause des migraines, mais en 2008, j'ai déjà consulté. Mais malheureusement, les médecins me disaient qu'il n'y avait rien. Et que c'était une sorte de dépression suite au divorce ou suite à la vie familiale. Comme je savais que je n'étais pas du tout dépressive, je suis une personne très positive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On m'avait administré des antidépresseurs, tout ça. Je refusais. J'ai refusé. Je n'ai jamais acheté ça. J'ai mis mes espas et j'ai commencé à courir. Et ça, je pense que ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée pendant des années. Donc, en fait, j'oxygénais mon cerveau de façon avec le sport.
Oui.
Et jusqu'à un moment où il y a eu le confinement, et je pense que le confinement y est pour quelque chose aussi, donc ça m'a, je ne sais pas, je pense. Là, j'ai commencé à prendre du poids, j'arrivais plus à le perdre. J'avais des migraines qui duraient de plus en plus, donc quand je parle migraine, je sais ce que c'est qu'aujourd'hui une migraine. Alors là, et qui ne part pas. Jusqu'à que je sois donc... Alors, évidemment, vous savez, je vais dire des choses. Vous savez, quand on est maman seule, on a une responsabilité. Je me disais toujours, je n'ai pas le droit de baisser les bras. J'avance. Il faut que j'avance. Il faut que je continue. Donc, malgré ces migraines, je continuais à travailler jusqu'au jour que, un jour en formation, je tombe, il y a une chute. Dans ma chambre d'hôtel et heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts et c'est là où les médecins m'ont dit il va falloir faire un check-up et voilà donc il faut savoir alors c'est pour ça que il y a aussi Sobar que j'ai il est incroyable et ça c'est pas bien pour quand on est malade on se dit on n'a pas besoin de se presser on y va doucement c'est pas facile l'IRM etc c'est tout un monde Yasmine c'est tout un monde c'est pas facile. Donc,
vous étiez seule dans cette épreuve?
J'étais seule. Ouais. J'étais seule, il y avait ma sœur qui était avec moi et je la remercie. Je ne voulais pas en parler au début à mes enfants parce que je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'aime bien quand c'est clair, bien net, de savoir ce qui se passe. Donc, le jour où j'ai été diagnostiquée, donc ayant un méningiome, mais je peux assurer une chose, quand j'étais donc en train de faire donc l'IRM, j'ai vu juste, alors travaillant le non-verbal, là je peux dire que je suis très forte. Mmh. En voyant la tête du radiologue, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Oui.
Donc, je lui ai dit, écoutez, mais ça a été un soulagement.
De savoir qu'il y a quelque
chose. Je ne savais pas encore ce qu'il y avait, mais en le regardant, il a eu peur parce qu'il pensait que c'était la fin, quoi. Il pensait que, je pensais que c'était un stade 4 parce qu'il me connaît et il a été surpris en me disant, mais comment vous n'avez jamais réagi? Quand même, 4,5 cm, c'est quand même énorme. Mm. Vous avez des symptômes, etc. Et en le regardant, j'ai dit, OK, maintenant...
Qu'est-ce que je fais?
Pause. Qu'est-ce que je fais? Mm. Pause. Et c'est ça ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? C'est pas la peine d'en faire un drame, c'est pas la peine d'aller pleurer dans le coin, de mm. dire, mon Dieu, quels sont les prochaines étapes? Et ça m'a soulagée. Donc, je peux dire une chose, qu'on a de super professeurs ici au Maroc, franchement, en tout cas, de très bons professeurs, et qui donc m'ont suivi, mais qu'il fallait opérer d'urgence.
Et alors justement, quand on sait qu'on va nous ouvrir le cerveau...
Oui. Oui. D'abord, le médecin qui vous dit... On ne peut pas savoir ce qui peut se passer après.
Oui, oui.
On peut toucher, par exemple, le langage. Donc, vous n'arriverez plus à peut-être à parler ou peut-être mal à parler. Il faudra suivre
une rééducation.
Une rééducation. On peut toucher un côté où un des membres donc, peut partir. Donc, vous serez peut-être handicapé d'un côté. Mais tout ça ne m'a pas fait peur. Mm. Tout ça ne m'a pas fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est que je me suis dit mourir après opération parce qu'il y a un risque. On ouvre le cerveau, hein, c'est très clair, on ouvre le cerveau et on ne vous dit pas. Après, c'est les aléas de la vie, on ne sait pas, des opérations. Et moi, ce que je voyais sont mes enfants. Je me disais, ils ont encore besoin de moi, je n'ai pas terminé, il faut que je réussisse ça. Donc, c'est pour moi une épreuve. Je l'ai pris ça comme une épreuve. Mm. Et j'étais vraiment prête.
À vivre les conséquences, en fait. Si...
Les conséquences. Ouais. Et je remercie le professeur qui m'a accompagnée dans cette opération. Il m'a dit, écoutez, on va faire étape par étape,
ouais.
D'accord,
ouais.
Ne réfléchissez pas trop. Parce que je me disais, et s'il fallait suivre des séances de chimio, etc., c'est tout un processus, comment je vais faire, et c'est moi qui travaille, c'est moi qui est responsable des enfants. Donc, je voyais tout ça, et je me suis dit, stop, arrivera ce qui arrivera, et on avance. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, programmation, donc on a programmé l'opération. C'était très bien, enfin... avant, mais il y a le moment, et ça, je ne dirai jamais, le moment où j'allais descendre dans le bloc opératoire, c'est cet instant-là où j'ai eu peur. Mmh. J'ai vraiment eu peur.
Parce voilà, qu'après, on se dit, comment je vais ressortir? Qu'est-ce qui va se passer après? Ça devient réel, en fait.
De ne plus revoir mes enfants, de ne plus revoir ma sœur, voilà. Mmh.
Mmh. Et donc, finalement, pas eu de séquelles après. L'opération a été une réussite.
Ouf, ça a été... c'est-à-dire, dès que je me suis réveillée, au bloc opératoire, alors c'était une opération quand même qui a duré 9 heures.
D'accord.
9 heures, c'était très long. Enfin, pour moi, ceux qui m'attendaient, c'était très long. Mais une fois que j'ai ouvert les yeux, la première des choses, j'ai commencé à parler. De peur d'avoir...
Vous perdez... Je comprends.
Et l'infirmier me disait, oh, on se calme. Et moi, je disais, non, je veux juste voir si j'ai encore, moi, je parle.
Ouais.
Et j'essayais de bouger les membres.
Oui.
Et là, c'est tout simplement le cerveau qui est remis à jour.
Oui.
Et je vais raconter, si vous permettez, juste... peut-être qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont eu ça, qui se retrouveront, je ne sais pas. Mais une fois que... pendant les 2 jours où j'étais pour me préparer à l'opération.
Oui.
À chaque fois, parce qu'il y avait un psychologue, il y avait tout un accompagnement qui venait me voir. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin de parler, etc. Non, j'étais très bien. Il me disait, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour dormir? Je disais, pas du tout. Je suis très bien, je dors bien, je suis prête.
Oui.
Comme je dis, je préparais un marathon. Et ce jour-là où je me suis réveillée, il y avait beaucoup de lumière et beaucoup de bruit. Et je leur disais, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Et ils m'ont répondu, impossible. Il faut que vous restiez éveillés, vous restiez éveillés pour surveiller le cerveau. Ouais. On ne veut pas vous perdre. Et ça, je pense que c'est la pire nuit que j'ai passée dans ma vie.
Ça, c'était après l'opération ?
Oui, après l'opération.
Ouais, il ne fallait pas dormir ?
Il ne fallait pas fermer les yeux et dormir parce qu'ils avaient besoin de contrôler le cerveau éveillé. Si je dors, c'était pour eux, c'était pas normal. Donc, ils me disaient tout simplement, c'est pour ça qu'il y avait des lumières trop fortes, ah. Je les vois encore, et beaucoup de bruit, et c'était fait exprès.
Prêt pour vous garder éveillé.
Éveillé, exactement. Ouais.
Et j'imagine qu'on est encore un peu sous l'effet de l'anesthésie, donc on est encore un peu d'ourine.
Oui, exactement. Et on a envie juste de se reposer. En fait. Ça s'est terminé, je parlais, ouais. Je bougeais mes pieds. Et donc voilà, donc c'est bon quoi.
Ouais.
Voilà, donc après c'était un peu dur. Je n'avais envie de voir personne, vraiment personne.
Mais qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est une petite déprime après ou...
ouais. Oui, une petite déprime, un retour sur soi. Retour sur soi. On a envie de... Mais ça, je pense que c'est des étapes tout à fait normales. C'est pour ça qu'il y a des psychologues qui venaient me voir. Voilà. Là, ça commençait à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, l'attente. L'attente pour savoir si cette tumeur est maligne ou bénigne. Ça, je pense que c'est aussi une période, parce qu'il faut attendre quand même un bon bout de temps pour avoir les analyses.
Donc, en fait, le fait de l'avoir retirée ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire.
Non, pas du tout. Non. Pas du tout.
Ouais.
Donc, c'est une étape.
Ouais, ouais.
Ça s'est bien passé. Il faut refaire pour voir si tout a été enlevé. Donc, ça aussi, c'est des étapes de la vie... qui sont très durs.
Ouais.
Après, il faut attendre et on prend beaucoup de poids avec les corticoïdes. Mmh. On change complètement. Et il y a la perte de cheveux, Jasmine. La perte de cheveux, aujourd'hui, je sais ce que c'est que perdre des cheveux. Ce n'est pas facile pour la famille, ce n'est pas facile pour personne, mais il faut avancer. C'était une période très difficile. Je remercie aujourd'hui ma fille et mes enfants, mon fils aussi, qui était là près de moi, qui se réveillait. Ma fille avait le bac à cette époque-là et elle a été extraordinaire. Mon fils aussi, il était... ils étaient là, ma sœur aussi était là, mon beau-frère aussi, donc ils étaient tous près de moi, mais ils ne pouvaient rien faire.
Ouais.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes espas encore une fois, j'étais méconnaissable, les gens ne me reconnaissaient pas dans la rue. Ne me reconnaissaient. Alors bien sûr, je perdais l'équilibre aussi. Quand je marchais dans la rue, je tombais. Mais je m'en foutais.
Ouais.
Moi, j'avais mes lunettes, j'avais la photocopie de la carte nationale.
Au cas où.
Au cas où si je... Voilà, et puis, j'avais quelques dirhams pour prendre taxi. Parce que c'était en fait ça, le médecin me disait ça. Et je marchais. Voilà. Alors, il fallait aller progressivement. Mais je marchais avec des petites... Alors que moi, je courais, je faisais la randonnée et tout ça. Et par exemple, ma soeur m'accompagnait en voiture, je descendais, elle me dit au revoir, je tombais. Elle descendait, mais qu'est-ce que tu dis, c'est pas grave. Le concierge, j'avais pris l'habitude, je montais. Alors c'était difficile pour les marches, mais voilà, c'est des petites choses. En fait, on renaît. Donc il faut beaucoup de courage. Il faut être positif, il faut voir les belles choses, il faut être dans la gratitude.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris de bon de toute cette expérience, Maryam, justement ? Quand vous dites qu'il faut être positive et en même temps, vous dites « je suis maman solo, c'est moi qui bosse, etc. »
Oui.
Vous avez appris
J'ai appris le lâcher-prise, Yasmine. J'ai appris le lâcher-prise. J'ai appris que ça ne sert à rien de courir après des choses. La gratitude est importante. Vivre d'abord sainement. Mais aussi... alors, j'ai aussi... je vais dire quelque chose de... Quand on dit souvent « entourez-vous de belles personnes », ben ça s'est fait naturellement. Je suis désolée de dire ça. Ça s'est fait naturellement parce que je me suis rendue compte qu'en fait, je cherchais le... j'allais vers les gens aussi pour ne pas rester seule, etc. Donc, j'ai appris aussi à apprécier la solitude. J'ai aussi apprécié à me découvrir, à vivre des instants. À apprécier la nature, à apprécier les choses simples. Voilà. Donc, et puis, je continue à avec mon sport tout doucement, à reprendre ma vie, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. On ne retrouve pas la santé comme avant. On ne la retrouve pas à 100%. Doucement. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je retrouve mon énergie, mais je dis stop. Parfois, pour ne pas trop me fatiguer. Voilà.
Maryam Fidlalem Kinassi, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci Yasmine, merci de me donner la parole pour ça. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.